je n'ai pas grandi dans une famille de lecteurs. Mes grands-parents paternels et maternels ont vécu dans un environnement de charbon et d'acier, du côté du bassin minier du Nord, où les seuls livres à se mettre sous la main étaient les journaux locaux, comme L'Avenir de l'Artois ou La Voix du Nord. Ils n'avaient pas beaucoup de loisirs et ne partaient jamais en vacances. Leur priorité était de subvenir à leurs besoins et d'élever leurs enfants du mieux qu'ils pouvaient. Dans l'environnement rude des mines et des hauts fourneaux, on privilégiait la survie. Le reste n'était qu'accessoire. Quand j'étais petit, mes parents se déplaçaient beaucoup. Mon père travaillait sur des chantiers de câblage téléphonique partout en France et à l'étranger, et ma mère, la plupart du temps, suivait. Ils n'avaient pas été élevés au contact des livres, et donc on en trouvait peu à la maison. J'ai le souvenir de quelques ouvrages à l'eau de rose ou autres grandes histoires d'amour qui traînaient dans un panier avec les magazines People. Mais ils provenaient d'abonnements à des clubs auxquels ma mère avait souscrit, sans doute embrigadés par quelques commerciales convaincants. 12 fois par an, elle recevait ainsi le grand livre du mois. Il m'est arrivé d'en lire quelques-uns. Je me souviens de l'histoire bouleversante d'une infirmière atteinte d'une grave maladie, qui malgré tout continuait à se battre et à soigner des gens. Ce récit, dont je ne me rappelle plus le titre, m'avait profondément ému. On parcourait souvent les brocantes le dimanche matin, et ma mère m'achetait des piles du journal de Mickey ou des Picsou Magazine à moins de 10 centimes de francs l'unité. Il y avait des jeux de réflexion, de courtes histoires, des blagues, tout un univers qui m'enchantait. J'adorais retrouver des personnages qui m'étaient devenus familiers et dont je vivais les aventures par procuration. J'étais le petit garçon le plus heureux du monde. Je passais mon dimanche après-midi à les dévorer et j'attendais avec impatience le dimanche suivant pour recommencer. Parfois, le généreux vendeur glissait un ou deux vieux romans de la bibliothèque rose pour le même prix. Les couvertures étaient tellement déchirées qu'elles glissaient entre mes mains. Des pages se décollaient. C'était invendable. Mais c'est ainsi que la quasi-totalité de la collection du Club des Cinq a fini sur mes étagères. Mes Tintin et mes Astérix étaient en revanche tout neufs, car je les réclamais à mon anniversaire ou à Noël. Je les conservais comme des pierres précieuses. Aujourd'hui encore, la simple vue d'un de ces livres ou magazines me ramène à mes heureux souvenirs d'enfance. Il m'arrive, au gré d'une promenade aux puces, d'en repérer un et de le feuilleter. Retour dans le passé garanti. C'est de cette façon-là, à écumer les brocantes avec mes parents, que lorsque j'ai eu 14 ans, j'ai découvert Stephen King. Je suis alors passé, sans transition, de la littérature d'aventure pour adolescents en 200 pages aux histoires terrifiantes 3 fois plus longues. Je me souviens, au terme de ma lecture de ça, avoir pleuré lorsque les héros oublient la formidable et périlleuse aventure qu'ils viennent de vivre. Pourtant, je ne sais plus ni où, ni quand précisément, j'ai lu cet ouvrage. Mais je me rappelle ma profonde tristesse et mes larmes. C'est la marque des grands auteurs, gravée au plus profond de votre âme, la trace brûlante de leurs écrits. Une cicatrice qui perdure même 30 ans plus tard. Dans des registres différents, les récits d'aventure de Jack London ou les fresques de John Steinbeck me procurent le même effet. J'ai enchaîné jusqu'à plus soif toutes les œuvres de Stephen King, et quand le stock a été épuisé, j'ai demandé à ma mère de m'acheter les autres livres vendus par les brocanteurs qui m'avaient fait découvrir cet écrivain génial, suspectant que ce devait être des textes du même genre et que donc, ils devaient être bons. J'ai découvert ainsi les productions de Jack Ketchum, Richard Matheson, Graham Masterton, Bram Stoker. J'avais une frousse bleue en lisant leurs récits, et pourtant, j'en redemandais. C'est aussi l'époque où j'ai plongé dans les univers plus policiers d'Arthur Conan Doyle, de Maurice Leblanc ou d'Agatha Christie. Je découvrais dans ces intrigues des mécanismes d'enquête et de déduction qui n'étaient pas forcément présents dans les romans d'horreur. Moi qui adorais les sciences et la logique, ma mère m'avait abonné à Science et Vie et Jeux et Stratégie, dont j'étais un fan inconditionnel, je fus comblé par ces lectures. Elles répondaient à ma soif de découverte et m'éloignaient de mes cahiers d'écolier l'espace de quelques heures. J'étais un élève studieux, brillant dans tout ce qui touchait aux mathématiques et à la physique. Je n'étais pas mauvais en français et les rédactions libres étaient de bons moments. Je n'ai pas le souvenir de m'être un jour retrouvé bloqué devant un sujet. La lecture, en dehors de l'école, stimulait mon imaginaire. Pour raconter mes propres histoires en devoir de français, je me raccrochais à des situations ou à des personnages que j'avais croisés dans des romans. Les livres nous permettent de vivre d'autres vies que la nôtre. Ils enrichissent notre expérience de situations que nous n'avons pas encore vécues, mais que nous pourrions vivre un jour. Ils nous rendent plus forts face aux problèmes, car ces écueils-là, les personnages de fiction y ont fait face et ont réussi à les surmonter. Je le dis aux jeunes lecteurs et lectrices, lire vous fait ouvrir les yeux plus grands sur le monde qui vous entoure. Arrêt sur image. Plus tard, les études supérieures m'ont rattrapé. Après le bac, j'ai fait une école d'ingénieurs lilloise, l'Institut supérieur d'électronique et du numérique du Nord, ISEN, où nous endurions avec peine 12 heures de mathématiques par semaine et autant de physique. Je n'ai pas lu beaucoup durant ces 5 années, hormis des ouvrages techniques. Mes parents se saignaient pour payer ma scolarité. Il fallait que je réussisse et j'avais en permanence le nez dans mes cours. Le week-end, je révisais, je décompressais avec les copains, mais je gardais toujours de la place pour regarder un bon film à sensation en cassette vidéo. J'ai ainsi vu tous les Cronenberg, Lynch, Spielberg, Romero. Il faut l'avouer, cela demandait moins d'efforts intellectuels et de temps que de s'immerger dans un roman. Entre 2 livres de maths, j'ai continué à être fasciné par les histoires sombres, tordues, étranges, et la façon dont elles me transmettaient des émotions, en particulier celle de la peur. D'un côté, j'avais face à moi des équations différentielles qui me laissaient froid comme le marbre, et de l'autre, s'ouvrait un torrent de sensations brutes, un voyage extraordinaire vers l'inconnu. Au plus profond de moi-même, déjà, j'enviais ces auteurs, réalisateurs et écrivains, capables de provoquer un tel bouleversement chez des gens qu'ils ne connaissaient même pas. Ensuite, j'ai commencé à travailler en entreprise, dans l'informatique, en région lilloise. Plus je visionnais de films, plus je lisais, je m'étais replongé dans les romans du genre thriller après avoir obtenu mon diplôme, comme Le silence des agneaux de Thomas Harris, Le vol des cigognes de Jean-Christophe Granger, et plus je me mettais à la place des personnages. Ne fais pas ça! Pourquoi tu n'as pas pensé à cette piste? Moi, dans la même situation, je n'aurais pas réagi de cette façon. J'étais derrière mon écran, au bureau, à exercer un métier qui m'avait demandé beaucoup d'investissement et qui me plaisait, mais entre 2 lignes de code informatique, je ne pouvais empêcher mon esprit de vagabonder. J'essayais d'imaginer des situations dramatiques dans le milieu de l'entreprise. Un ouvrier qui soudain ne donne plus signe de vie, un employé qui cherche à se venger à la suite d'un licenciement. Le soir, au moment de m'endormir, je poursuivais l'aventure. J'essayais de pousser plus loin les petites idées que j'avais eues dans la journée. Et je me suis mis à inventer ma propre histoire. Petit à petit, nuit après nuit, les décors se précisaient, les traits des visages se dessinaient, les scènes s'enchaînaient et je les distinguais parfois très précisément. Je ne le savais pas encore, mais j'étais déjà en train d'écrire. Non pas sur papier, mais dans ma tête. Une écriture mentale, intérieure, qui n'allait passer par la plume que dans un second temps. Si l'on m'avait dit, 1 mois avant que je me lance, qu'un jour je serais romancier, j'aurais pris mon interlocuteur pour un fou. Je n'ai jamais eu cette idée en tête. Au départ, je ne suis pas un littéraire académique. Au lycée, les cours de littérature ne me passionnaient pas. Les Confessions de Rousseau ou Le Rouge et le Noir de Stendhal m'étaient restés en travers de la gorge, comme à beaucoup d'élèves de ma classe d'ailleurs. Je faisais mes rédactions comme tout le monde, je remplissais le nombre exact de pages qu'il fallait pour obtenir une note correcte, mais sans guère d'efforts supplémentaires. En revanche, j'adorais la grammaire et l'orthographe, et les dictées étaient mes moments préférés de la semaine. Je retrouvais, dans la façon d'accorder « elles se sont brossées les dents » ou de mettre au pluriel « gratte-ciel », cette logique implacable des mathématiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, dans la plupart des cas, un cheminement rigoureux à base de règles et de définitions qui conduit à écrire le mot tel qu'il doit s'écrire. Je connaissais en outre le Becherel par cœur, dont la couverture rouge vif se détachait de la même manière que celle de ma collection du Club des 5, et je l'avais toujours au fond de mon sac. Il était pour moi l'un des livres les plus géniaux jamais inventés.